de Andy Fletcher, décédé à 60 ans d'une crise cardiaque. Et au sport, au tennis, à l'Omnium de Monterrey au Mexique, Leilani Fernandez renoue avec la vie.
FM, Midi Info. Il est midi à Montréal et dans nos studios de Place Versailles. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Nous sommes mardi 19 août 2025. Au micro, je suis Ismaël Bonigaba. Au menu de cette édition, nous avons l'unique sujet de la sécurité en Haïti. Une sorte de remaniement se poursuit au sein de la PNH, la police nationale d'Haïti. On annonce l'installation de 3 nouveaux cadres policiers, l'inspecteur général Berson Soljour, directeur de cabinet du directeur général intérimaire de la PNH, a procédé à l'installation de l'inspecteur général Justin Marc comme nouveau directeur central de la police judiciaire DCPJ. Il succède à son poste à l'inspecteur général Pierre-René François. L'inspecteur général Jean-Marc a déjà occupé plusieurs postes au sein de l'institution policière, dont celui de directeur central de la police administrative DCPA, de directeur départemental de l'Ouest DDO, de responsable de la police frontalière terrestre Polifront, ainsi que d'adjoint de directeur de l'École nationale de police ENP. L'inspecteur général Berson Soljour a également procédé à l'installation de l'inspecteur général Jean-Maurice Etienne comme directeur, nouveau directeur du personnel de la PNH. Il succède à ce poste à l'inspecteur général Stanley Augustin, transféré à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH. L'inspecteur général Jean-Maurice Etienne, directeur du personnel de la PNH, a procédé à l'installation du commissaire principal Sergio Damsi comme nouvel adjoint du directeur du personnel de la PNH. Il succède à ce poste à Rémi Jean-Baptiste, qui a assuré cette fonction pendant plus d'un an. La situation en Haïti ne semble pas bouger dans le bon sens. Les politiques ne trouvent pas de solution à l'insécurité répandue dans le pays, alors que l'implication de la communauté internationale reste sans résultat et les citoyens haïtiens ne savent plus vers qui tourner leurs yeux. La société civile haïtienne de Montréal ne veut pas croiser les bras, alors elle s'en mêle. Une conférence a été organisée dimanche dernier ici à Montréal. Et c'était autour du thème suivant, le rejet de l'insécurité en Haïti. L'instigateur de l'événement, le pasteur Jean-Fils Aimé, a livré les tenants et les aboutissants de cette initiative. Et il ne mâche pas ses mots quand on lui pose des questions sur les approches radicales qu'il entend adopté. Voici l'entrevue qu'il avait préalablement accordée à Radio Centre-Ville au micro de Robert Lautur et moi-même.
Au fait, le thème qu'on va aborder, c'est en particulier l'enjeu de l'insécurité. On sait que depuis les 4 dernières années, la problématique de l'insécurité s'est intensifiée en Haïti. On parle de plusieurs centaines de milliers de déplacés. Les statistiques sont des Nations Unies, on ne saurait nécessairement en douter. Et donc, on a essayé plusieurs formules. On a essayé la formule des Kenyans. On a essayé la formule des mercenaires. Et là, on réalise tout à coup que nous disposons peut-être d'un bassin de ressources disponibles qui seraient prêts à s'engager. Je parle en particulier de ces vétérans d'origine haïtienne, donc des professionnels d'armes qui ont servi dans des armées professionnelles comme le Canada, comme les États-Unis. Je parle également de retraités de police municipale professionnelle comme la police de Montréal, donc de retraités haïtiens qui seraient prêts à réfléchir sur la problématique, question de produire un mémorandum qu'on remettrait au nouveau chef de la police haïtienne, M. Paraison, qui vient d'être installé, et qu'on remettrait également au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, cette fin de semaine, sur la même table vont s'asseoir des vétérans des armées américaines et canadiennes, des retraités de la police de Montréal, tous d'origine haïtienne, et qui vont réfléchir en tant qu'experts à la problématique de l'insécurité, question de produire un mémorandum qu'on va remettre au chef de la police, que j'ai eu au téléphone d'ailleurs ce matin, et qu'on va déposer au Conseil de sécurité des Nations Unies à la fin du mois de septembre. Car ce que nous réalisons, l'auture, c'est que aussi longtemps que nous laissons l'enjeu de l'insécurité aux mains exclusives des politiciens, pas grand-chose ne se fera. On a vu les divers coordonnateurs du CPT se rendre en France, se rendre au Vatican, se rendre en Colombie pour des résultats qui se font encore attendre. Alors on se dit, la société civile peut se prendre en main, mais puisque la question de l'insécurité, c'est un sujet d'experts, nous allons tenter de provoquer une synergie entre les vétérans des armées professionnelles de l'Amérique du Nord, des vétérans haïtiens, de telle sorte qu'on puisse régler une fois pour toutes l'enjeu de l'insécurité en Haïti. Donc ça va se dérouler ce dimanche à 16h, comme tu l'as dit, ce dimanche 17 août à 16h, au 3971 boulevard Robert, donc c'est au complexe de l'église Vie Transformée. La salle peut accueillir facilement entre 500 à 1000 personnes. Nous vous attendons tous. L'effet du nombre est de rigueur, l'entrée est gratuite, ce sera un débat public entre des experts haïtiens et la société civile autour des enjeux de l'insécurité.
Alors, Pasteur Fizemé, on a d'autres questions pour vous, parce que je suis accompagné d'un collègue de la radio, Isbaël Mbonigaba. Moi aussi, j'ai deux autres questions que j'aimerais vous poser.
Jean-Fizemé, la société civile dans Montréal, donc la société civile haïtienne dans Montréal, vous organisez cette conférence et puis vous allez parler de l'insécurité, la crise sécuritaire en Haïti. Mais il y a une question que l'on peut vous poser sur les données sur lesquelles vous allez vous appuyer. Est-ce que les acteurs qui sont au pays participeront à cette conférence?
Oui, au fait, nous avions lancé une invitation au secrétaire de la sécurité publique en Haïti, le commandant Mario André Sol, qui ne peut se libérer cette fin de semaine. On comprend, parce qu'il y a un nouveau chef de police qui vient d'être installé. Il y a des rumeurs persistantes qui le voient désormais au ministère de la sécurité publique. Donc on comprend qu'il ne puisse se déplacer. Mais soyez assurés que le chef de la police, le nouveau commandant de la police d'Haïti est au courant. Je lui ai parlé ce matin d'ailleurs. Et il attend justement ce fameux document qui sera produit par les vétérans. Maintenant, sur quelles données se baseront-ils? Mais les données existent. Hein. Les données existent au sein des Nations Unies. Les données existent au sein des divers ministères de défense des pays en question. Je parle du Canada et des États-Unis. Et c'est des données qui sont pour la plupart libres d'accès. Donc, nos vétérans y ont accès. Déjà, on travaille sur une première mouture de ce mémorandum. Oui, ce sont des données fiables parce qu'elles nous sont fournies par les Nations Unies et certaines données accessibles du ministère de la Défense du Canada et du ministère de la Défense des États-Unis, sans compter des statistiques également qui nous sont fournies par la police nationale haïtienne elle-même. Oui.
Mais jusque-là, on peut se demander aussi quelle chose nouvelle pourrait sortir de cette conférence, de cette rencontre, cette discussion. puisqu'on a presque tout vu.
On a tout essayé aussi.
On a tout essayé. Qu'est-ce que la société civile de Montréal pourrait apporter comme nouveau?
Ah, mais d'accord. Avec égard, hein, est-ce qu'on a beaucoup essayé? On a essayé beaucoup de choses, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on a tout essayé? Je ne suis pas sûr. Regardez, la méthode qu'on va essayer d'utiliser, c'est de provoquer une synergie auprès des professionnels d'armes de la diaspora. Ça, on ne l'a pas encore essayé. Regardez, la question de la sécurité, ce n'est pas une affaire d'amateur. Si vous me demandez d'en parler, je ne peux pas en parler. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon champ d'expertise. Je ne suis pas un professionnel d'armes. Et là, quelques-uns d'entre nous ont pensé que, tenez, nous avons là un bassin de ressources disponibles. Je parle des vétérans, c'est-à-dire des retraités haïtiens de l'armée américaine, des retraités haïtiens de l'armée canadienne. Je parle des retraités de la police de Montréal. Ces gens-là, ils ont un champ d'expertise. Ce sont des professionnels, ce sont des praticiens de la chose. On ne les a jamais consultés. Mais mieux, ce sont des gens qui ont un niveau d'engagement pour Haïti. Il y a un major à la retraite de l'armée canadienne, un major haïtien qui est un ami personnel, qui m'a personnellement dit, c'est d'ailleurs lui-même qui m'a mis sur la piste, il connaît beaucoup d'haïtiens retraités des armées canadiennes et américaines qui seraient prêts à s'engager sous le commandement de la police ou bien en synergie avec la police. Cette solution-là, nous ne l'avions pas encore essayé. Et c'est dommage que nous ne l'ayons pas encore essayé parce que les pays soi-disant amis n'ont pas arrêté de nous chanter « Écoutez, la solution doit être haïtienne ». Eh bien, voilà une solution haïtienne, la société civile haïtienne, qui met sur une table des professionnels d'armes d'origine haïtienne, qui produisent un mémorandum, un plan d'action pour résoudre le problème d'insécurité et qui ne vont pas agir dans le chaos, qui vont le faire sous le commandement de la police haïtienne. Celle-là, messieurs, rendez-moi fou ou sage, cette méthode-là, nous ne l'avons pas encore essayée.
Donc, on comprend que ces experts des armes vont se déployer volontairement en Haïti.
Ils sont... Là, vous allez un petit peu plus vite que la musique.
Ils vont d'abord...
Ils sont prêts à le faire.
D'accord.
Ils ont l'intention de le faire, mais encore faut-il que la police haïtienne, le commandant de la police haïtienne, les sollicite. C'est pour ça que moi-même, mon rôle là-dedans, en tant que civil, c'est d'être le pont, la passerelle, d'être le passage, justement, entre ces ressources-là de la diaspora et le commandant de la police haïtienne que j'ai eu au téléphone et avec qui je reste en contact. Il est au courant de cela et il est ouvert à explorer cette voie-là. Le temps est venu pour que les compétences soient à la bonne place. Jean-Fils Aimé est un civil, il ne connaît rien à la question de la sécurité. Mais si je dispose d'un pouvoir de convocation grâce auquel je peux mettre sur la même table des professionnels d'armes haïtiens, et si j'arrive à les mettre en contact avec la police haïtienne, mais c'est extraordinaire, et ce modèle-là, on va le reproduire dans plusieurs villes. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas que je réinvente la roue, c'est précisément le modèle que l'armée d'Israël, à sa fondation, avait utilisé. Quand Israël devait mettre sur pied une armée professionnelle, il ne faut pas croire qu'Israël disposait toujours de l'aide américaine d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'Israël avait, si vous voulez, la permission, exemple, de l'Empire britannique, c'était le contraire. Eh bien, Israël a choisi d'utiliser les ressources de ses professionnels d'armes qui exerçaient dans d'autres armées pour mettre sur pied son armée. Alors, donc moi, je me dis, je peux m'inspirer de ces exemples-là, d'autant que les vétérans haïtiens de ces armées-là sont de jeunes. C'est des gens de 40 ans, parfois de 35 ans. Pourquoi pas, ils sont disponibles. Et ils aiment Haïti. Ils aimeraient se rendre en Haïti pour aller en vacances. Ils aimeraient aller amener leur famille en Haïti. Mais ils ne peuvent pas s'y rendre à cause de l'insécurité. Et donc ce niveau d'engagement-là, il est présent chez ces vétérans haïtiens. Et dans la mesure où la police haïtienne exprimait le désir et la volonté de les utiliser à bon escient, ces ressources-là sont prêtes à être déployées. Encore une fois, je ne suis pas militaire. Le mot déploiement a un sens technique, quand il sort, quand il tombe de la bouche d'un militaire, mais là je l'utilise en tant qu'analyste. C'est des ressources qui sont prêtes à être utilisées, non pas dans le chaos, mais sous le haut commandement de la police haïtienne pour résoudre le problème. Parce que ce qu'on refuse de croire, c'est que l'insécurité en Haïti, on refuse de croire qu'elle n'a pas de solution. Elle a une solution comme tout autre problème. Haïti n'est pas le premier à être exposé à ce type de problématique-là. La Jamaïque est un exemple dans ce sens-là et d'autres pays aussi qu'on n'a pas besoin de mentionner ici. Haïti n'est pas le premier à connaître cela. Si eux s'en sont sortis, nous pouvons aussi nous en sortir sans nécessairement demander le déploiement de l'armée canadienne, le déploiement de l'armée américaine, d'autant que ces gens-là refusent de le faire. Alors nous avons un bassin de ressources. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble sur une même table et joindre ces ressources-là aux ressources d'Haïti pour que notre Haïti chéri nous revienne à nous, les enfants?
Alors, Pasteur Fizemé, après le 7 février 1986, il y avait un mouvement citoyen dénommé Opération Lavalas, qui est devenu ensuite un parti politique. Ce mouvement pourrait-il se métamorphoser en parti politique? Parce que pour appliquer les belles réflexions, les belles décisions, vous devez être au pouvoir.
Oui. Mais encore une fois, mais, oui. Monsieur, vous êtes trop ingénieux. Vous êtes plus vite que la musique.
Non.
Commençons par un mouvement citoyen. Mm-hmm. Si ce mouvement citoyen, parce que je vais vous dire mon plan. Mon plan, c'est de commencer à Montréal et exporter cette conférence-là dans toutes les grandes villes de la diaspora, pas seulement la diaspora nord-américaine. Je compte exporter cela aussi au Chili, au Brésil, même en République dominicaine. Il y a une pression civile sur les autorités haïtiennes pour qu'elles utilisent ces ressources-là. Et pour l'instant, l'intention n'est pas d'en faire un parti politique. Mais je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un truc qui est en dehors de la politique. Ce serait naïf de ma part que de croire qu'un tel projet peut être déployé sans le soutien des politiques en Haïti. On va leur faire l'offre, on va maintenir une pression sur les autorités politiques pour qu'elles acceptent l'offre, mais si jamais l'offre n'était pas acceptée, la société civile serait libre de son destin pour récupérer son pays. Donc là, on n'est pas prêt à reculer. Ce n'est pas un intellectuel qui veut faire des discours, là, Monsieur Lothio. Vous l'avez dit, je suis quelqu'un d'engagé.
Oui.
Et quand j'attrape un dossier, faites-moi confiance, je suis comme un pitbull. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que l'Haïti de Lothio, ce n'est pas vrai que l'Haïti de Fils-Aimé va leur échapper au profit des terroristes qui travaillent pour des intérêts étrangers. On va être clair. Haïti ne fabrique pas d'armes. Haïti subit un embargo d'armes létales, d'armes mortelles, et pourtant les barbecues, les ISO ne manquent jamais d'armes ni de munitions. Et les Nations Unies elles-mêmes nous disent que toutes ces armes-là viennent des États-Unis, en particulier du sud des États-Unis. Et pourtant, les États-Unis ont un ministère qu'on appelle la Homeland Security, dont l'un des mandats consiste justement à surveiller la circulation des armes américaines à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Alors, si ces armes partent si facilement des États-Unis vers Haïti, voyons les amis, c'est qu'il y a des enjeux, c'est qu'il y a des mains invisibles qui nourrissent des intérêts inavouables. Alors, c'est cela qu'il nous faut casser. Nous ne devons pas nous résigner à une espèce de fatalité. Ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous. On comprend l'intention. Il y a derrière cela la gentrification. Je suis historien de formation, comme vous le savez, Monsieur Lothio.
Bien sûr.
Dans les années 90, en Floride, il y avait un quartier qu'on appelait Little Haiti. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, oui.
Dans les années 90, Little Haiti était invivable. Saviez-vous pourquoi? On inondait Little Haiti de drogue et d'armes. Quand quelqu'un qui vivait à Little Haiti appelait la police pour dire qu'il vient d'être confronté à des tirs, n'est-ce pas, en pleine rue, la police refusait de venir, sous prétexte que c'était une zone de non-droit. Très bien. Au début des années 2000, les gens, précisément parce qu'ils paniquaient, ont commencé à vendre leur maison pour des bouchées de pain. Et il y avait des consortiums qui étaient très intéressés à acheter leur maison. Savez-vous quoi aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Si vous retournez dans Little Haiti, vous savez quel type de magasin vous allez y trouver? Des magasins extrêmement luxueux. Par exemple, c'est là que Guy La Liberté a établi sa maison générale, son quartier général pour
Cirque du Soleil.
Le Cirque du Soleil. Vous savez que dans ce quartier de Little Haïti, où vivaient des gens qui étaient littéralement pauvres, aujourd'hui, il y a des magasins comme Richard Mille. Richard Mille, c'est un bijoutier qui vend parmi les montres les plus chères. Ronaldo porte des montres Richard Mille. Ça s'appelle la gentrification. Voici le plan. On inonde un certain territoire d'armes mortelles, on fait fuir la population civile. À un moment donné, l'État va déclarer ces zones-là d'utilité publique et va les acheter, ces zones-là, pour une bouchée de pain. Et enfin, on va vendre cette terre-là à des consortiums internationaux qui vont y élever des hôtels, des resorts. Et alors, vous et moi allons y travailler, n'est-ce pas, à titre d'employé, sur cette terre qui nous appartenait jusque-là. Voyons, nous avons déjà vu cela dans d'autres pays, nous devons résister. Et pour y arriver, nous ne devons pas compter sur le Canada, nous ne devons pas compter sur les États-Unis, nous devons compter sur nos propres enfants.
Monsieur Fizemé, je sais, vous êtes très conscient de la gravité de la situation, de la crise sécuritaire qui affecte profondément, bien sûr, la vie des citoyens. Vous entendez mettre à profit votre expertise, votre mobilisation de la diaspora surtout.
Oui.
Mais il y a aussi les réseaux internationaux auxquels vous allez faire appel, c'est sûr. Mais traditionnellement, la société civile ne recourt pas à des solutions aussi radicales. Est-ce que vous avez envisagé de parler un jour aux groupes armés qui sèment le chaos?
Non. Écoutez. Il y a des dialogues qui ne mènent à rien. Quand vous avez des gens qui sont déterminés à semer le chaos, des gens qui sont déterminés à semer la mort, je ne suis pas pour un dialogue avec eux, pour leur dire quoi ? Mettez bas les armes. Ça, ils le savent déjà, d'autres ont déjà essayé. Leur parler pour leur offrir l'amnistie, jamais. Leur parler pour leur dire, si vous déposez les armes et que vous acceptiez de dire d'où vous viennent les armes, on pourrait peut-être commuer votre châtiment, bien sûr. Mais je ne suis pas du genre, moi, à initier un dialogue. Ce n'est pas ma personnalité, je préfère vous le dire. D'autres y croiront, tant mieux. Mais moi-même, m'asseoir avec des gens qui ont violé, qui ont kidnappé, qui ont tué, qui ont volé, non, pas du tout. S'ils dépendaient de moi, j'aurais introduit dans la Constitution haïtienne des dispositions qui réintroduiraient la peine de mort pour ceux qui kidnappent, pour ceux qui violent et pour ceux qui se livrent au commerce illicite des armes. Donc moi, je suis pas. On n'est plus au stade où on doit dialoguer. Je pense que ces gens-là ont traversé le Rubicon. Maintenant, il faut se mobiliser en tant que professionnel d'armes d'origine haïtienne pour les chasser tout simplement. Alors, le temps est venu pour eux de choisir entre les deux termes de l'équation. Déposer les armes, passer à table, dénoncer ceux qui leur ont mis ces armes entre les mains ou tout simplement le chemin du cimetière. Je suis, moi, d'un pays qui s'appelle Haïti et qui a pour ancêtre un certain Jean-Jacques Dessalines, l'empereur, notre bien-aimé empereur. Il disait, et c'était l'une des phrases de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, « Pour tout problème sérieux, il y a une solution sérieuse. » Parfois, la solution sérieuse consiste à donner la mort à ceux qui créent le problème. Donc moi, je suis de cela, je ne vous le cache pas.
Ok, alors Pasteur Fizemé, leur fil, en guise de conclusion, rappelez-nous les coordonnées pour dimanche prochain.
D'abord, en conclusion, je vous remercie.
C'est à nous aussi de vous remercier. Merci,
vous
remercier.
Vous avez fait tourner en moi le sang des Saliniens, je vous en remercie. Donc je rappelle que la conférence aura lieu ce dimanche, le 17 août, à 4h de l'après-midi, au 3971 du boulevard Robert à Montréal. Et la grande différence entre cette conférence et toutes les autres, c'est que à cette table de conférence, ce n'est pas Jean-Philippe Sémé qui va parler. Je ne m'y connais pas en sécurité. Je serai le modérateur de la chose.
Okay.
Mais qui allons-nous avoir comme intervenant? Ce sont des vétérans haïtiens de l'armée américaine, de l'armée canadienne, des retraités haïtiens de la GRC et de la police de Montréal qui vont dire voici ce qu'ils comprennent des enjeux et voici ce qu'ils sont prêts à faire pour aider à résoudre le problème. Et de cette conférence, il y aura ce qu'on appelle les actes de la conférence dans un langage académique. Donc de cette conférence sortira un mémorandum qu'on remettra au nouveau chef de la police haïtienne. Voyez-vous ? Donc ce ne sera pas du prêchi-prêcha, ce sera de l'action, ce sera du concret. Merci de l'entrevue, messieurs, et j'attends tout le monde ce dimanche à 4h au 3971 boulevard Aubert à Montréal.
Voilà. Alors, nous vous remercions. Bravo pour cette initiative, pasteur
Fizemi. Merci de me recevoir aussi. Et puis, quelle belle entrevue. Hein, voilà.
D'accord, merci.
J'en redemande, hein, merci.
D'accord, merci.
Au revoir, bye-bye.
Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de nouvelles. Merci de votre fidélité. Au micro, c'était Ismaël Mbonigaba. Nous vous souhaitons une agréable après-midi.
Dans la diversité pour le développement de notre localité. Les organisations Hachevro en action, Association progressiste sport de Hachevro, l'organisation Haute-Feuilloise pour le développement à l'étranger, l'UPDHCE, 5 étoiles de Déso, ont l'immense plaisir de vous convier à une soirée de gala dénommée Tête Ensemble. C'est le samedi 27 septembre prochain à la Perle Retrouvée, 7655 20e Avenue à Montréal. Ressortissant de Basse-Terre, Hautefeuille, Gazange, Hachevro, Déso, Gilbert, Poussin, Fabias, Larac, Duvalon, ainsi que tous les amis d'Haïti, soyez présents, c'est pour une bonne cause. Info Sylvestre Fleuzinor, 514-458-5751, Salnave Jean-Noël, 514-966-8445, Raymond Excellent, 514-234-2651, Odette Alciné, 438-931-4286, Joe Excellent, 514-591-2881. Samedi 27 septembre, à la Perle Retrouvée, c'est le rendez-vous.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on parle à Claude, n'a pas qu'on est qui s'appuie bon pour nous, c'est pour ça mettre Suzy Jean là, oui. Mettre Suzy Jean Notaire, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean Notaire, le vôtre.
Radio Centre-Ville lance son bingo radio dès janvier. Courez la chance de gagner jusqu'à 3 500 $ par semaine. Jouez seul ou en famille et pourquoi pas avec les amis. Procurez-vous vos cartes dans les revendeurs autorisés à la grandeur de Montréal. Le bingo de Radio Centre-Ville. Du plaisir et de l'excitation au maximum. Et bien sûr, de l'argent sonnant, 3 500 $ chaque samedi soir. Détails sur radio-centreville.com.
Tous les lundis, mardis et jeudis.